Donc vous avez bien compris que la thématique du projet en règle générale, c'est donc le rôle des végétaux dans la représentation de l'altérité, la représentation donc de l'autre. Et puisqu'on avait bien vu qu'entre soi et l'autre, il y a souvent du végétal qui se place, et d'autant que le végétal migre tout autant que les humains. Donc en fait, finalement, vraiment le but, c'est de revisiter le concept de dissémination, mais de le concorder à la fois sur la dynamique de mouvement des végétaux et des humains, pour voir si on arrive à aboutir à un concept qui pourrait donner du sens à la fois à ces deux dynamiques. Donc, et c'est ça en fait qui a généré l'idée du jardin d'altérité, c'est véritablement cette conception de dissémination, et c'est donner à voir un nouveau concept de dissémination au travers du jardin. Alors, on a des nouveaux exemples. Je vous prie d'être assez tolérant parce que ce sont des projets qui sont véritablement au tout début, donc au tout début de la recherche. Moi, je travaille au Maroc depuis une vingtaine d'années. Je parle berbère, tachelhite et arabe. Et dernièrement, en fait, j'ai découvert un sujet assez intéressant. C'est qu'il existe un tout petit village dans le sud du Maroc, où en fait on cultive une variété de cédrats très particulier, le citrus medica, une variété très particulière qui est très en fait valorisée dans une fête juive assez connue qui s'appelle le Soukot, et qui en fait voilà, il y a une filière qui s'est développée. On sait pas très bien, on connaît pas l'histoire, on sait pas comment cette occurrence a pu apparaître, comment est-ce qu'un village du sud du Maroc complètement isolé a pu se lancer dans la culture du cédrat, et donc entretenir cette culture pour des rabbins qui viennent aujourd'hui du monde entier, de New York, etc., acheter ce cédrat pour donc la fête rituelle du Sokot. Alors ce village, il se trouve dans la région pour ceux qui connaissent un peu le sud du Maroc, dans la région d'Agadir, plus précisément dans la région de Taroudant, donc c'est pas inaccessible, hein, mais c'est une zone extrêmement aride, et on a une petite vallée qui est pliée donc dans plusieurs versants montagneux, et on a donc des sources qui alimentent justement donc cette petite oasis où on cultive donc ce qu'on appelle etrog. Etrog, c'est ce citrus médica qu'on utilise donc dans la fête du Sokot. Alors la fête du Sokot, c'est quoi? C'est en fait une fête de pèlerinage. Ça fait partie des trois grandes fêtes de pèlerinage où on célèbre en fait l'assistance divine apportée donc aux enfants d'Israël pendant l'exode. Et donc en fait cette fête concerne quatre espèces particulières. Etrog, Yulav, c'est-à-dire le palme de dattier, Haddas, la branche de mitre, et Arava, la branche de saule. Et donc on constitue une sorte de bouquet avec les trois espèces, et donc on tient dans la main droite, alors je ne sais plus, ça c'est extrêmement codifié, je peux vous dire, si vous n'avez pas un rabbin qui peut vous expliquer comment est codifié le rituel, c'est un petit peu difficile. Alors l'etrog est aussi associé, ça c'est la version marocaine, puisque l'etrog en fait, il est utilisé dans plein de pays, y compris Israël donc, hein. Mais au Maroc on a aussi donc la tradition orale qui développe toute une réputation de l'étrogue autour des saints. Donc les saints, vous savez qu'au Maroc, il y a énormément de... On dit que c'est la terre des saints, on dit que dans l'islam, l'Arabie saoudite est la terre des prophètes et le Maghreb est la terre des saints. On a des saints juifs et des saints musulmans. Et donc l'odeur, par exemple, de l'étrogue est censée accompagner le saint, est censé embaumer la maison du saint naturellement, même s'il n'y a pas donc de etrog dans la maison. Alors donc ce petit village, hein, il y a 500 habitants, ils sont tous spécialisés donc dans cette filière, ils sont vraiment des experts de la production de l'etrog. Les etrogs sont soignés, lavés, etc. Pour être vendus. Après, c'est vendu bien évidemment dans les grandes villes du Maroc ou exporté dans les grandes villes en Israël, aux États-Unis, en France, etc., y compris dans certaines grandes villes marocaines comme Fès. Mais il y a des rabbins qui viennent aussi sur place pour pouvoir s'approvisionner et choisir bien évidemment les meilleurs etrog. Et donc ils viennent avec des loupes, etc. Et on les voit donc dans cette petite oasis en train de sélectionner les trogues. Alors la sélection, elle se fait à partir de différents critères. C'est extrêmement compliqué. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut que l'arbre soit non greffé. Et les rabbins l'expriment en disant qu'il faut que la branche du bas doit avoir le même goût en fait que les trogues. Hein, donc ça, ils le disent très très souvent, il faut que la branche du bas ait le même goût que les trogues. Les branches sont tirées au sol, en fait, pour que les trogues puissent pousser donc dans une atmosphère d'ombre, en fait. Ça rappelle un petit peu, si vous connaissez l'île de Pantelleria, au sud de la Sicile, où on a aussi ces cultures d'oliviers ou de raisins qui sont nanifiées. Là, on a aussi donc cette volonté de vouloir tirer vers le bas, pas pour les mêmes raisons que dans le sud de la Sicile, là c'était pour les causes de vent, et là c'est véritablement pour l'ombrage. Il faut que le fruit soit gros, à peu près 15 à 20 cm, il ne faut pas qu'il soit tacheté, sans trou, une surface inégale, enfin j'en passe des détails, il y en a quand même beaucoup. Voilà, quant à sa forme, bien évidemment, elle doit rappeler, alors il y a énormément d'interprétations, mais elle doit rappeler plus ou moins donc la forme d'un cœur humain, enfin il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça, mais vous allez voir qu'on va bien évidemment dériver vers la pomme d'Adam. Donc, puisqu'il y a un glissement sémantique extraordinaire depuis les latins jusqu'à aujourd'hui au niveau de cette espèce. Alors bon, voilà, là c'est sur les marchés, vous voyez qu'ils sont emballés, calibrés, etc., etc. Voilà, j'aime bien cette photo parce que là au moins c'est assez clair. Donc les trois points en fait de ce petit programme de recherche, les trois axes, c'est un, les glissements sémantiques hein, dont a fait l'objet les trogues. Bon, moi je m'intéresse énormément sur ce que j'appelle les glissements icono-sémantiques, c'est-à-dire à savoir qu'entre les civilisations, très souvent, eh bien, on reprend, on fait un glissement, on prend une icône, on le transforme en symbole, etc., etc. Et dans la nomenclature est truffée de ce genre de choses et on a une sorte de dialogue finalement entre les civilisations. On peut retrouver des reliques, par exemple, de l'Égyptien ancien dans certaines nomenclatures. C'est vraiment passionnant, une sorte d'archéologie donc des nomenclatures. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc entre le pomus perseoe en latin. La pomme de Médie en français, la pomo d'Adamo justement en italien, plus tous les dialectes méditerranéens, siciliens et autres, qui ont énormément donc de noms par rapport à ce citrus medica. Il y a même dans le nord de l'Italie une variété acide qui s'appelle Etrog, la main de Bouddha. Donc voilà comment le bouddhisme s'introduit donc dans ce mythe de la pomme d'Adam. Alors, l'explication historique, bien évidemment, et sociologique d'une telle micro-localisation de la filière de l'Etrog, parce que c'est quand même assez étonnant. S'il y avait toute une région, s'il y avait plusieurs villages, on comprendrait, mais là, c'est un village de 500 habitants. En plus, les habitants ne se revendiquent pas comme étant descendants de communautés juives, alors qu'on sait bien qu'il y a des communautés juives qui habitaient dans le sud du Maroc. Donc voilà, il y a une énigme à percer. Je suis loin de l'avoir percée. Donc, et le troisième point, c'est le lien entre les savoir-faire locaux, sur l'arboriculture de l'étrogue, et ceux mobilisés justement par les rabbins dans l'expertise de l'étrogue. Donc, est-ce que justement cette demande a entraîné une spécification particulière justement de l'arboriculture. Est-ce que cette arboriculture est totalement différente justement de l'arboriculture d'autres espèces qui existent dans la région ou non? Voilà. On sait aussi que cet étrog est consommé par les Marocains, musulmans marocains, mais pas du tout avec le même calibrage, c'est-à-dire ce qu'on valorise dans la cuisine, parce qu'on le mange, dans la cuisine marocaine, c'est le gros étrog, et on fait d'excellents tagines avec. Je vous remercie.